Du bon son.
Ou pas.
Des artistes.
Pourquoi
du
pas.
Cinéma.
Peut-être.
Des débats.
Je sais pas.
Des interviews.
Ouais.
Eh bien, tout ça sur radio.esperanza.be.
Ou pas.
Très chers auditeurs, bonjour. Nous sommes donc rassemblés aujourd'hui pour ce premier débat de Radio Esperanza 2017. Les portes du festival ont ouvert leurs portes il y a quoi ? Il y a 2 heures là maintenant ?
C'était à 15h.
Oui, voilà, c'était à 15h. Et j'étais en bas quand Jean-Yves Lafineur, donc directeur du festival, a fait « C'est bon, ouvrez les portes ». Et tout le monde l'a applaudi et les premiers se sont rués, se sont fait fouiller. Ils fouillent. Ils fouillent complètement. Je crois que c'est le premier jour, c'était la première heure, mais ils fouillent complètement, donc jusque les chaussettes, quoi. Et les rebords, les retours de pantalon. Donc voilà, la sécurité est assurée à Esperanza. Eh bien donc, bonjour à toutes et tous. Bonjour Lise.
Bonjour Déborah.
Et donc, premier débat de l'année, on va traiter de...
Genre et militantisme.
Avec un débat 100% féminin, du coup, avec Suzy à la technique. Salut Suzy. Et autour de la table, je te laisse faire le tour de table.
Oui, alors autour de la table, on a d'abord Vali.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour Vali.
Bonjour.
De l'organisme Barricade.
Oui. Paye ton festival.
Paye ton festival.
Oui, voilà. Et ensuite, je continue le tour de table, on a Virginie.
Bonjour. Non. Tiffany.
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 Pardon, voilà. Tiffany. Bonjour Tiffany.
Bonjour.
Voilà, Tiffany de...
Paye ton festival.
Voilà, voilà.
Bien parler dans le micro.
Oui,
oui.
Voilà. Et ensuite, nous avons donc Virginie.
Salut.
Salut.
De Barricade.
Oui. Voilà, on va y arriver, on va y arriver. Et elles sont toutes les trois avec nous pour nous parler donc de genre et militantisme, un sujet assez vaste, un thème assez vaste, n'est-ce pas, Déborah ?
Assez vaste, oui, puisque je crois que c'est une des premières fois quand même sur le Festival Esperanza où on traite de genre.
Wouhou !
Oui,
ah
bah
bon
oui.
En
oui,
2017, oui, oui. C'est un peu...
En 2017, mais il y a tellement de choses à faire qu'évidemment, oui. À débattre. Et puis, c'était une question que je me suis posée l'année passée. Je me suis dit, oh, ben quoi ? Et on m'a dit, ça va venir. Bah vous voilà. Donc, c'est la première année que vous participez avec Barricade ou Payton Festival au Festival Esperanza ?
Oui, oui.
Oui, voilà. Ah, ok, bah, merci. Donc, voilà, c'est bien la preuve que le débat peut commencer. Voilà, j'appelle en même temps les autres intervenantes qui vont arriver. Et d'abord, peut-être la première question, c'est de savoir, Barricade et Payton Festival, déjà ce que c'est. Si ce sont déjà des associations qui sont basées sur le genre ou le féminisme, voilà, présentez-vous un peu et vos associations, en fait.
Je commence ?
Ouais.
Donc moi, je suis Virginie, je travaille à Barricade. Barricade, c'est une structure liégeoise, une structure qui travaille en éducation permanente. Donc on travaille sur 3 grandes thématiques. La première, c'est le féminisme, dont je m'occupe. On travaille aussi la transition agroalimentaire et socio-économique. Et la troisième thématique que nous avons appelée parole active et police au cul, qui nous permet de faire de la politique, du socio-culturel, de la philosophie, tout ce qu'on ne range pas sous le féminisme et la transition.
Parole active et police au cul.
Parole active, c'est le nom officiel pour l'inspection, parce que donc, nous sommes en éducation permanente, donc nous avons des charges, des devoirs, etc. Et on l'appelle entre nous police au cul, parce que ça nous fait rire.
C'est vachement plus drôle, ouais.
Voilà. Et donc, Paye ton festival est né un peu au sein de Barricade, mais c'est tout doucement envolé. Et là, peut-être que vous pouvez plus raconter le comment ça s'est passé.
Ben, nous, Paye ton festival, c'est plutôt un collectif d'amis. Et qui s'est constitué effectivement par des rencontres qui ont été créées à Barricade. Et l'idée nous est venue effectivement de mettre en place un stand qui se concentrerait sur plein de questions féministes ici dans un festival. Parce que bon, on a vu effectivement que dans l'actualité, il y a eu beaucoup de soucis effectivement sur les festivals en termes de viol, en termes de harcèlement. Et donc on s'est dit que ça pourrait être une bonne idée d'être présente et d'être visible ici dans un festival.
Et c'est-à-dire que il est dangereux d'être une femme en festival.
Et un peu partout. Non, en fait.
Comment ? Enfin, parce que tu parles d'événements qui se sont passés dans des festivals. En fait, on n'en a pas spécialement conscience ou on n'en a pas spécialement... On ne le sait pas.
Bah, là, ici, ce qui s'est passé, notamment dans l'actualité, c'est là, il y a un mois. Donc, il y avait le festival suédois Bratis... Bravala, me semble-t-il, où effectivement il y a eu plusieurs cas de viol, il y a eu 4 jeunes femmes qui ont été violées, et il me semble qu'il y a eu 23 plaintes d'agressions sexuelles qui ont été déposées, et donc ça a permis de mettre en place justement une réaction féministe. Elles ont notamment décidé de créer un festival entièrement féministe, non mixte, donc les hommes n'auront plus accès à ce festival. Et ici, en Belgique, on s'est rendu compte que c'était quand même la même chose. Il y a un article qui est paru dans la presse, il me semble, dans le journal Paris Match. Et donc la journaliste constatait qu'effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de violences que les femmes subissent en festival. Donc ça va effectivement, comme j'ai dit, du viol à des violences physiques, sexuelles, du harcèlement, des insultes, de la drague super lourde. Et donc voilà, c'est vraiment un problème qu'on rencontre au sein des festivals, particulièrement aussi avec la présence de drogue, d'alcool. Tout ça, effectivement, ça augmente les dangers pour les femmes. Oui.
Mais ce qui s'est passé aussi en Suède, si je peux rebondir sur ce que tu dis, c'est que apparemment ils ont annulé ce festival. Donc c'était il y a un mois à peu près. Ils ont complètement annulé à cause de ces plaintes. Et ce qui a fait le buzz, apparemment, c'est qu'en France et en Belgique, quand il y a ce genre de choses, eh ben, on renforce la sécurité et on n'annule pas, on continue. Il n'y a pas de réaction très forte, finalement, des autorités. Est-ce que c'est ce que vous dénoncez, vous, finalement, par le biais de ce stand? Est-ce que vous souhaitez aussi mettre en cause... Vous mettez aussi en cause, entre guillemets, le silence des autorités dans ce genre de phénomène ou pas du tout?
Des autorités, oui, mais pas que. Il y a aussi les organisations, effectivement, de festivals. Elles ont été, il me semble, appelées par plusieurs journalistes et ils n'ont pas voulu répondre aux questions concernant, effectivement, les mesures de sécurité qui avaient été mises en place spécifiquement pour les femmes. Ils ont bien dit que, oui, il y avait des mesures globales de sécurité, mais rien concernant, effectivement, les dangers qui concernent uniquement les femmes. Et donc ici, ce serait aussi une manière justement de rendre ça plus visible et de permettre justement aux femmes ici sur le festival toute une série d'outils qu'elles pourraient mettre en place. On a toute une série d'ateliers qu'on va mettre en place demain. Donc nous, on va s'occuper notamment avec Vali d'un atelier d'autodéfense verbale, par exemple. Donc c'est déjà un premier pas pour apprendre vraiment des techniques de base. Et on a toute une série d'autres ateliers qui vont être proposés aussi, par exemple.
Alors, on parlait de mesures. Quelles sont les mesures qui sont prises par les organisations de festivals ou pas prises par... Mais quelles seraient ces mesures?
Déjà, écoutez, je pense que via les animations que le Payton Festival va mettre en place, et puisque nous, on essaye de faire aussi pour Barricade, c'est de déjà avoir une prise de conscience. Parce que pouvoir se défendre, c'est une première chose, mais pouvoir se rendre compte qu'on est victime de quelque chose et que c'est pas juste au niveau individuel que ça se passe. Est-ce que j'ai trop bu? Est-ce que je l'ai trop chauffé? Est-ce qu'il avait le droit de... Mais le politiser, en parler ensemble, se dire que, comme Tiff dit, ce sont des violences que les femmes vivent au quotidien. Ça ne serait pas pareil si c'était un garçon. Ça, l'air de rien, c'est là. Donc pouvoir poser le constat et pouvoir renforcer ça et se sentir légitime de dire non, stop, etc. via des moyens, je pense que c'est une première chose très importante et donc là qui se joue au niveau individuel. Et en termes de visibilité, pouvoir le porter aussi. Enfin, il y a une espèce de loi qui existe pour le harcèlement. Elle est hyper vague, c'est hyper difficile de la faire respecter. Donc la loi est là, super chouette. On est un des premiers pays en Europe et même dans le monde. La Belgique est super fière de ça. Mais cette loi, pour la faire appliquer, c'est quasiment impossible. Parce que tout relèverait de la jurisprudence, en fait. Il faut pouvoir prouver que... Il y a quelqu'un... Enfin, en fait, il faut apporter des preuves.
Il faudrait pouvoir enregistrer, en fait, quand on se fait, par exemple, verbalement insulter parce qu'on est... Parce qu'on
Donc, vagin. T'es victime, mais ce qui va permettre d'aller plus loin au niveau du jugement, c'est toi qui dois collecter les preuves. Donc, il faut que t'enregistres, il faut que t'ailles appeler des témoins, que les gens soient là pour dire « oui, c'est bien vrai ». Et puis après, le cas du harcèlement n'est pas du tout posé. Donc c'est quoi? Oh, ça va, c'était juste un compliment. Bah oui, toi, tu l'entends comme ça, mais moi, je ne l'ai pas vécu ainsi. Et donc, tout ça, tant que ce n'est pas cadré, ça ne sera jamais possible de pouvoir aller dire à un flic qui traîne ou même aux gens chargés de la sécurité à ce niveau-là, écoutez, moi, je sens que... Bah, on va dire, ben bah, oui, peut-être, bah, je ne sais pas, couvrez-vous, ne buvez pas, fréquentez pas ces personnes. Et donc ça, à un moment donné, il faut non seulement responsabiliser au niveau individuel, mais aussi interpeller là-dessus. Et je pense que c'est important de faire des actions comme celles qui sont proposées par Payton Festival, de pouvoir dire à un moment donné, zut, on en a marre, et ça ne doit plus se passer comme ça. Tant vous, les femmes ou les personnes qui sont victimes de ça, réagissons, mais vous aussi, à partir du moment où on le nomme, faites quelque chose. Parce que ce n'est pas encore à nous de vous prouver qu'il se passe quelque chose et qu'il faut intervenir.
Et justement, dans le faire quelque chose, donc, vous organisez des ateliers d'autodéfense verbale. Et quoi d'autre? concrètement pour interpeller les festivaliers et les festivalières? Est-ce que, par exemple, vous faites des ateliers pour interpeller les hommes? Parce que finalement, ce sont eux qui sont les provocateurs de tout ça. Donc, est-ce que les festivaliers, vous trouvez qu'ils ont conscience de ça, les hommes, donc, de cette violence, quoi?
Bah, qu'ils en ont conscience, ça dépend lesquels. Fatalement, un homme n'est pas l'autre. Mais ici, dans ce qu'on va proposer au niveau vraiment de la prise de conscience, il va y avoir notamment un atelier sur les privilèges qui va être organisé demain. Et donc là, ça va être pas uniquement sur les violences sexistes, mais ça va être sur les violences racistes aussi, homophobes. Et donc ça va être déjà un premier pas, il me semble, dans la prise de conscience, qui sont donc là des ateliers mixtes auxquels les hommes peuvent participer. On a aussi un atelier sur le consentement qui va avoir lieu demain. Là, par contre, celui-là, il me semble qu'il va être en non-mixité, me semble-t-il. Et alors, oui, là, l'atelier d'autodéfense verbale, là, celui-là, il est non-mixte, quoi. Mais celui sur les privilèges, ça peut déjà être un premier pas pour les hommes, en tout cas.
Et après, au sein du stand qu'on a pour Paye ton festival, on a une zone non-mixte, du coup, afin de se retrouver entre femmes ou entre personnes qui ont des vécus de femmes pour discuter de ce qu'on vit, comment on le ressent, et simplement pour, dans un premier pas individuel, comme disait Virgie, se rendre compte qu'on vit toutes exactement la même chose, de la même manière, que c'est pas un hasard, qu'on n'a pas flashé, que c'est pas dans ma tête, je deviens pas folle, je suis pas hystérique, j'ai pas réagi de manière chelou, non, je vis un truc hyper craignos, on est blindé à le vivre aussi, et c'est juste complètement systémique. Du coup, c'est se retrouver ensemble, être entendu entre nous, et puis après porter la voix plus loin, et en étant renforcé, pouvoir en fait simplement accéder à un non, un stop, en fait c'est terminé, on n'en peut plus. Et du coup après pouvoir conscientiser éventuellement les hommes ou les oppresseurs de cette différence de genre. Mais d'abord c'est se retrouver entre nous, se renforcer, s'entendre, se comprendre, et enfin aller vers l'autre et dire voilà, d'abord stop, et puis ensuite si tu veux on peut vraiment discuter, mais de ne pas non plus tomber dans « je vais faire ton éducation, je n'ai peut-être pas envie, je n'ai peut-être pas le temps », mais par contre, si toi, tu as envie, si tu as l'esprit ouvert, on peut prendre 2-3 minutes et lancer une conversation.
Oui, puis à ce niveau-là, vous avez, enfin, il y a plusieurs visuels aussi qui sont affichés, il y a des petits infokiosques, et donc l'énergie n'est pas forcément mise sur le comment on va faire votre éducation, comme tu dis, Vali, ouais. Mais il y a aussi, enfin, depuis tout à l'heure que les visuels sont affichés, il y a plein de gens qui s'arrêtent, on sent que ça discute, et là, c'est déjà un super pas, parce qu'en ouais. effet, s'ils ont envie de mettre leur nez dedans, c'est possible, ouais. Et la documentation est là. Et,
ça lance le débat, quoi.
Ouais, c'est ça.
C'est vraiment pour provoquer la discussion, finalement, entre festivaliers et festivalières. Et les zones non mixtes sont un bon moyen, parce que la plupart des personnes, je suppose, des festivaliers, sont interpellés par ces zones en disant bah, « quoi, on ne peut pas rentrer, on a des pénis !» Donc voilà, ah ouais. Mais justement, allez, c'est vraiment ce que tu disais tout à l'heure, pour renforcer finalement, retrouver une certaine cohésion ouais. entre femmes. Et concrètement, ça va se passer comment? Par exemple, moi, je suis festivalière, j'ai envie d'aller, je ne sais pas moi, à n'importe quelle heure de la journée, à 15h demain, discuter de tout ça et avoir quelques techniques de je ne sais pas, discuter de mon vécu. Je peux me rendre à votre stand, et là, il y a une zone non mixte, en fait, ouais. déjà ouais. au stand, c'est ça.
Et elle n'est pas de manière permanente, mais du coup, on peut l'ouvrir dès qu'il y a le besoin. Elle n'est pas hyper, hyper claire, mais on peut l'ouvrir à n'importe quel moment, et s'il y a 3-4 personnes, hop, on l'ouvre, et c'est un espace fermé qui est bien bien délimité, où on est
au calme.
Ouais, au calme et bien caché, on peut boire du café, du thé, on se met un peu à l'aise.
Et pas de bière?
Non.
Non. On va peut-être écouter un petit morceau de musique.
Mais peut-être la proposition Violane a rencontré hier une gardienne de parking. De carping. De parking.
Une gardienne de parking, musicienne, oui.
Musicienne. Oui. Et on s'est dit que c'était la bonne occasion de la découvrir ici. Voilà. Je pense que son nom sera dit dedans. Sinon, on appellera Vio et elle nous dira toutes les infos.
Allons au parking.
Allons, partons.
Un vagabond, je n'ai pas de maison. Je reste dans les rues, dans l'air et de Namur. Ma maison, c'est du carton, je dors où je peux. Mais quand il pleut, la gare fait mon bonheur. Mais la commune en a décidé autrement. Pas demain du cité jaune, rue de Namur. Mais la commune en a décidé autrement. Pas demain du cité dans les rues de Namur. Je suis un vagabond, un marchand de bonheur. Je je chante pour les cœurs abandonnés. Ma maison c'est du carton, je dors où je peux, mais quand il pleut, la gare fait mon bonheur. Mais la commune l'a décidé autrement, pas de m'en décider dans les rues de Namur. La commune l'a décidé autrement, pas de m'en décider dans les rues de Namur. Mes copains de galère, on nous mène en bateau, mais nous on reste là, car on n'est pas des rats. Des copains de galère, on nous mène en bateau, mais nous on reste là, car on n'est pas des rats. Mais la commune en a décidé autrement, pas de mendicité dans les rues de Namur. Mais la commune en a décidé autrement, pas de mendicité dans les rues de Namur.
Bravo, bravo, excellent, merci Gratia. Ouais, tu es donc Grazi,
tu fais des chansons engagées.
Et on peut te retrouver où
On est sur le site.
Sur le site, donc de l'abbaye de Floreffe, ouais. En direct de Esperanza.
Esperanza.
Pour les trois jours.
Oui, trois jours.
Et proprement dit, là, tu vas t'occuper de quoi durant le festival?
On va accueillir les artistes. Pour mettre leur bagnole. C'est souvent un boulot de...
et tu les accueilles avec ta gratte, là?
Oui. Ah, ouais. Il faut venir, c'est impeccable.
Ah, excellent. Eh bien, avec plaisir, on viendra... Tu vas écouter.
Au bas des pieds. Celle-là, je ne l'ai pas protégée, tant pis. Hein. Tant pis.
Ah, avec Radio Esperanza, tout est possible.
Au bas des pieds. Quand j'entends un garçon dégueuler ses opinions. Tous les profiteurs, surtout le mec de Marseille. Pauvre folie, télévisée, pour mystérie, manipulée, on vous met pas le bout du nez.
Fais pas tout, hein.
Avez-vous donc les yeux fermés, pour ainsi vous tirer une balle dans le nez.
Merci beaucoup. Merci.
Et tu vois, pauvre folie télévisée, c'est vraiment bien dit, quoi.
Merci, c'est merveilleux. On viendra te réécouter avec grand plaisir.
J'en ai fait d'autres. Mais en fait, notre but, c'est quand elle m'a téléphoné, elle m'a dit « Grazi, il faut que tu nous écrives une chanson. » Parce que, contre la mesure. Et on est arrivé. Et puis après, on a campé sur la place d'armes. Pour.
Avec les mendiants.
Il y a quelqu'un d'autre qui intervient, ton ami.
Ouais, une action anti-mendiant, parce que le règlement anti-mendicité, on n'était pas d'accord avec ça. Donc avec les mendiants de Namur, on a occupé la place d'armes avec des tentes et voilà.
Et un beau camion, là, je vois. Ouais. Là, il y a un beau camion.
Un camion?
Ici, derrière.
Ça, il s'appelle pas camion, il s'appelle Jeffke.
Ah, et pourquoi? En l'honneur de qui s'appelle Jeffke?
Parce que Jeffke, c'est un glandeur comme moi, c'est un bourlingueur, c'est un mec sympa, mais c'est mon binôme, il s'appelle Jeffke.
Oh, et bien enchanté Jeffke, et enchanté les filles, et ouais, comment tu t'appelles?
Ouais, Noël.
Noël, ouais. Et
Grazi.
Grazi qui gratte à fond. Oh, merci beaucoup, ce fut un pur bonheur de venir garer sa voiture.
Et ce que c'est chouette, c'est que moi j'ai bien aimé, je voyais ta tête, je dis comme ça, je dis à mon copain Pascal, je dis attends, je vais la voir, est-ce qu'on peut garer? Non.
Et j'y ai cru. Et puis finalement, les aventures d'Esperanza, c'est ça, c'est de superbes rencontres.
Ah oui, moi j'ai passé plusieurs fois à TV, moi, Esperanza.
Eh bien, tu viendras donc à Radio Esperanza, pour un petit prêt à diffuser.
Oui, pour le justement, contre la mesure. Et en plus, j'ai écrit une chanson sur les flics, mais bon, ça, je n'ai pas encore.
Ils seront là d'ailleurs, à distribuer des tracts.
Ouais. On ne t'entend pas, Noël.
Les mendiants, ils seront là sur le site Esperanza pour distribuer des tracts et vendre des t-shirts mendiants d'humanité.
Oh.
Et moi, en fait, j'ai fait une chanson, mais je vais la répéter maintenant, c'est sur les flics, parce qu'en fait, on s'est fait tabasser par les flics.
Ah, cette fois-là, oui, hein, on a vu ça dans les médias.
Ah, mais j'étais dedans, et alors, mais je ne peux pas lire maintenant, mais je ne me rappelle plus.
Eh bien, répète et on reviendra.
Oui, c'est une chanson, en fait, qui explique qu'ils sont venus, avec leurs jumelles barbales et nous avec nos cachouas, quoi. C'est vraiment un truc qu'on a fait en vitesse. C'est souvent des chansons comme ça.
Mais la créativité, c'est ça
travaille
aussi,
pour la charrette. Lutte de la pauvreté. Plein de choses, j'ai fait aussi sur les chômeurs. Alors, la FGT Blum me demande, il faut que tu écrives une chanson sur les chômeurs. Pas mal de choses que je fais par rapport à ça. C'est tout du social, c'est tout
de l'engagé.
Ah oui, de la chanson
militante.
Ouais, militante et populaire aussi. Hein.
Merci.
Ça va, merci. D'accord. Et ça, c'est moi qui l'ai dessiné.
Et comment elle s'appelle, ta guitare?
Hein, on n'a pas condamné, mais ça, Lélé Guitare.
Lélé Guitare.
Non, c'est Lélé Guitare. Oui, mais j'ai deux guitares.
Mais on peut faire deux heures d'émission avec toi. Qu'est-ce que tu dis, Noël?
Que tu travailles ou pas pauvreté en fin de mois. Et ils veulent que cela soit pire, que l'on reste là sans rien dire. Y'a basta, y'a basta, y'a basta, y'a basta. Avec nous on le soit à des difficultés. Avec nous on le soit à des difficultés. Et ils veulent que cela soit pire, que l'on reste là sans rien dire.
Mais je fais avec la guitare d'habitude ça.
Grazi, un elle est merveilleuse.
Un spectacle, je ne sais plus très bien ce que c'était, mais le chanteur a dit « Hey, Grazi, c'est mon spectacle hein. !» Parce qu'elle participait à fond.
Ah ouais.
Je ne sais plus où c'était. Dit,
ouh là là, elle arrive avec une autre guitare, avec d'autres dessins encore plus beaux. Mais cette interview improvisée ne se terminera donc jamais.
Attends, on va voir ce que
Que tu travailles ou pas pauvreté en fin de mois.
Tu répètes.
Que tu travailles ou pas pauvreté en fin de mois. Et ils veulent que cela soit pire, que l'on reste là sans rien dire. Y'a basta, y'a basta, y'a basta, y'a basta. Avec ou sans logement t'as des difficultés. Avec ou sans logement t'as des difficultés. Et ils veulent que cela soit pire, que l'on reste là sans rien dire. Y'a basta, y'a basta, y'a basta, y'a basta.
Et alors, le prix du pain augmente. Je ne dis pas tout, hein, je dis une partie.
Le prix du pain augmente et ta vie est déchante. Le prix du pain augmente et ta vie est déchante. Et ils veulent que cela soit pire, que l'on reste.
C'est dégueulasse comme chanson.
Oh, c'est merveilleux, merci Grazi.
Mais elle sera plus belle avec une autre.
Merci Grazi, allez les filles, à bientôt.
À bientôt.
À bientôt, au revoir.
Radio Esperanza.
Radio Esperanza.
Esperanza, c'est propre.
On peut dire ce qu'on veut, et surtout de la spontanéité.
Radio Esperanza.
Un bon vieux jingle Radio Esperanza. Et donc on est toujours en direct sur Radio Esperanza 106.2 sur la bande FM autour de Fleuref, mais également sur Panique Campus, Run 48 FM et UFM. Peut-être d'autres aussi, on vous citera juste après. Et sur internet, bien entendu, radio.esperanza.be. Ça marche, je pense, ça marche très bien, radio.esperanza.be.
Et on est en compagnie autour de la table qui s'est agrandie puisque Sophie est arrivée, oui.
Bonjour,
bonjour Sophie. On a aussi autour de la table, toujours avec nous, Vali, Virginie et Tiffany, toujours, l'association Barricade et surtout du stand Paye ton festival qui sera sur le festival Esperanza pendant toute la durée du festival, pendant ces 3 jours, pour vous parler de genre, de féminisme surtout. Et surtout pour mettre en place, vu que ça vient juste de commencer, un espace non mixte, une zone non mixte où les femmes pourront se retrouver, se papoter autour d'une tasse de thé sur leur vécu, leurs différentes expériences. Et justement, on se posait la question avec Déborah de savoir ces zones non mixtes, en fait, jusqu'où ça peut aller, parce que on parlait tout à l'heure du festival en Suède il y a un mois qui a fait un tollé pas possible à cause des agressions, etc. Et apparemment il parlait aussi en Suède de faire des parties carrément de faire un festival non mixte. Mm-hmm. C'est ça, mais alors juste ça va jusque où? Est-ce que un festival non mixte, mm-hmm, c'est une bonne idée selon vous? Est-ce que c'est une bonne idée?
Moi de base, la non-mixité, c'est toujours une valeur que je défends. Maintenant, c'est un concept, enfin même un outil politique qui est quand même assez large et qui peut être utilisé de beaucoup de façons différentes. La non-mixité, ça peut être de la non-mixité vraiment stricte, dans le sens où ça va être uniquement des femmes qui ont un vagin qui vont pouvoir venir, mais ça peut être aussi une non-mixité qui va être étendue à d'autres personnes. Par exemple, elle peut être ouverte donc à des personnes trans, elle peut être ouverte aussi à des personnes homosexuelles. Donc ça, c'est un petit peu à chaque collectif et à chaque groupe non mixte de définir lui-même sa propre valeur, sa propre définition de non-mixité. Nous ici, c'est une non-mixité qui est quand même relativement large, mmh, qu'on a choisi ensemble de défendre.
C'est femme et vécu de femme, du coup.
Oui.
C'est ça qu'on avait dit.
Oui, voilà. Oui, c'est comme ça qu'on l'avait défini, effectivement.
Parce que ce qu'on entend souvent aussi, c'est C'est quoi ? C'est tout le monde bienvenu sauf cisgenre. Ça, c'est un peu le mot à la mode aussi, non ?
Cisgenre, plutôt cis-mec, même d'habitude, ouais. Parce que quand c'est en non-mixité, ou que c'est porté en tout cas par du féminisme, ouais, c'est cis-mec plutôt.
Et cis-mec, c'est quoi la définition ?
Bah,
t'en as cis. Bon, popo.
Bah, être cisgenre, ça veut dire que le sexe, donc le fait que t'aies un pénis ou une vulve entre les jambes, est en accord avec le genre social qu'on t'a donné. Donc à partir du moment où t'es enceinte, on fait une écho et on dit c'est un garçon parce qu'on a vu un pénis, bah, en fait, tu nais et tu vis ta vie et t'es super en accord avec ça. Là où ben, il arrive que tu aies un pénis, mais que tu ne te sens pas... C'est pas comme ça que tu te reconnais au niveau identitaire, au niveau du genre.
Et alors pourquoi... apparemment, dans les espaces non mixtes, c'est ça, on dit cis mec non accepté, c'est ça ? Donc c'est-à-dire une femme qui sentirait homme ?
Non, cis mec, donc un mec qui a un pénis et qui sent mec. Donc un mec.
Ok, ça va.
Un mec, comme on l'entend en général.
D'accord, ça va, ok.
Et donc, Sophie, parce que là aussi, tu nous parlais hors antenne, mais donc on va te demander d'expliquer. Donc, tu fais partie d'ABELI, donc Association Belge de Logiciels Libres.
Oui.
Voilà.
Et, totalement mixte.
Totalement mixte, mais que d'un côté, il y a aussi les Samedis qui, là, sont non mixtes.
Voilà. Donc, les utilisateurs de logiciels libres, finalement, ils ne sont pas encore très nombreux, donc ils se reconnaissent entre eux. Et... entre femmes, on a aussi un groupe assez informel, parce qu'il est un peu en manque d'activité pour l'instant, mais tout à fait ouvert à de nouvelles rencontres, qui est le collectif tout à fait non mixte, les Samedis, pour faire les Samedis au féminin pluriel. Donc c'est la pratique des logiciels libres pour l'empowerment des femmes. Et on le conçoit comme non mixte, même si parfois on a invité des hommes, mais là c'était le choix. Et on a parfois fait de drôles d'expériences. Un homme qui se pointait et puis qui, sans s'en rendre compte, et ben il monopolisait toute la parole. Mais c'était étrange comment, en faisant le debriefing par après, il ne s'était aperçu de rien. Il n'y avait pas de problème pour lui. Mais donc, nous, on voit bien qu'il y a une dynamique différente quand on partage des pratiques informatiques. « Ah, c'est toi, tu fais comme ça, et regarde, il y a moi aussi de faire ceci. » Et on est tout ensemble autour d'un ou deux écrans, alors que parfois, on voit des groupes de geeks, hommes, mais c'est chacun devant son écran. On entend les mouches voler, alors que nous, on partage, on montre, et ci et ça. Et puis, « Ah, mais tiens, j'ai ce fichier-là, je te l'envoie. » Et c'est tout à fait différent comme pratique, mais... Il faut le faire pour s'en rendre compte vraiment, quoi.
Ouais, parce que l'informatique, c'est ce qu'on disait hors antenne, c'est que l'informatique, c'est vraiment c'est encore malheureusement catalogué comme étant un domaine de mecs, quoi. C'est
voilà.
Un domaine d'hommes, quoi.
Donc au départ, ce collectif des Samedis, c'était utiliser l'infrastructure d'une ASBL de formation pour femmes, Interface 3, dans l'informatique. Pas dans les logiciels libres, mais dans l'informatique. Donc il y avait ce côté non mixte qui était là. On a voulu... étendre ça au logiciel libre et on utilisait leurs infrastructures le samedi, donc en dehors de leurs cours et de leur formation. Mais ce n'est plus le cas pour l'instant et on n'est plus dans un cadre de formation professionnelle. Donc ça veut dire qu'au départ, il y avait vraiment des programmeuses, des administratrices réseau et on avait ce genre de projet. Finalement, pour se faire reconnaître comme légitime, on voulait avoir un serveur et le gérer convenablement comme des femmes, comme si ça allait être super différent. Mais entre-temps, des personnes qui font du web, du design web. Il y a des gens qui utilisent l'informatique et qui préfèrent les logiciels libres. Donc on peut aussi être de simples utilisatrices. Simplement, on le fera de manière un peu différente pour partager les pratiques et les choses intéressantes et compagnie, quoi. Donc on sait aussi, en se rendant plus informés et moins régulières, on s'est aussi éloigné du sérieux du monde professionnel et des fonctions reconnues, etc.
Et c'est aussi une bonne idée vous parliez de formation, c'est ça ? Est-ce que vous faites des formations ouvertes à toutes les femmes ? Par exemple, j'imagine des cours de j'y connais rien, hein, mais des cours de d'informatique.
Voilà, mais donc on n'utilise pas le mot formation, on parle de workshop. On fait des ateliers où on partage nos bidouilles. Et on a essayé, par exemple, ensemble, à quelques-unes du groupe, pas toutes, parce que pas toutes n'étaient intéressées, à apprendre un peu le code Python. Parce que
c'est le code Python.
Le code Python, c'est une manière de programmer qui peut être utilisée dans les écoles parce que c'est assez, une approche assez pédagogique. On peut arriver avec un code qui est un peu souple, sans être bloqué trop vite, à programmer quand même des choses qui sont valorisantes parce qu'on arrive au résultat qu'on voulait. Donc il y a eu il y a quand même des jeux avec des pratiques d'informatique et de programmation, mais on l'utilise finalement pour des projets presque existentiels, par exemple, de surveillance, de données santé, etc. Donc ça a l'air un peu nébuleux quand j'en parle comme ça. Ce serait beaucoup plus drôle avec un ordinateur, des tasses de thé ou même quelques bières, et on parlerait des projets, quoi.
Mais c'est fou parce qu'on dirait... Comme tu parles, Sophie, qu'on en viendrait même à dire que l'informatique, finalement, il y a certains domaines ou certaines manières de coder, ce qui apparente pour moi un langage, en fait, finalement, certaines phrases de ce langage qui seraient genrées, en fait. Il y aurait une informatique, on dit un informatique, monde informatique féminin et un monde informatique.
La programmation, j'en suis pas sûre du tout. Par contre, dans les utilisations, on va sans doute voir que les femmes utilisent les moyens informatiques pour du relationnel, pour du réseautage, pour du contact. Et on dirait réseautage, mais pas nécessairement pour du réseautage professionnel, donc.
Et les hommes ?
Je ne sais pas, on peut en parler avec Abélie, mais je crois qu'entre nous, ici, c'est plus intéressant de voir en quoi on peut avoir des utilisations spécifiques. Oui, Par exemple, toutes les utilisations des réseaux sociaux, on pourrait les libérer un peu, ces réseaux sociaux, et ne pas se cantonner à Facebook, s'il vous plaît. Et on peut faire des tas d'ateliers là-dessus. Justement pour se réseauter entre nous et faire des tables d'ateliers sur des thématiques intéressantes pour nous, et de tous les aspects de la vie quotidienne, personnelle.
Tu veux dire, par exemple, apprendre, je sais pas, à gérer un programme qui t'aiderait, je sais pas, à construire un CV quand t'es au chômage ou des choses comme ça ?
Oui.
Ouais. Non, je sais pas, j'imagine, mais j'essaie de donner un exemple concret parce que c'est vrai que c'est un
on
peu
peut fou, quoi. On peut s'entraider sur des thématiques de recherche d'emploi et compagnie, c'est important pour toutes pour être autonome, évidemment. Mais par exemple, un des projets qu'on avait, c'était utiliser, donc il y a tout plein de matos pour voir le nombre de pas qu'on fait sur la journée, le rythme cardiaque et compagnie. Le souci, c'est qu'on achète du matériel. Le matériel capte nos données personnelles, les envoie au serveur qui est très loin, et nous revend nos propres données personnelles qui ont soi-disant été traitées. On essaye de trouver d'autres manières pour accéder nous-mêmes à nos données. Pourquoi ? Parce que ça peut simplement être une pratique de santé de se dire « j'aimerais bien marcher un peu plus sur la journée, j'ai pas envie de devenir complètement dingue par ça, mais je voudrais simplement maîtriser mes données sans devoir les racheter à Fitbit, pour ne pas le nommer, qui me rendrait mes données à moi. » Et donc, c'est simplement réfléchir à des choses pratiques comme ça.
Mais c'est vraiment, c'est aussi une manière d'être plus libre, finalement.
Mmh. Oui.
C'est un côté très, très anticapitaliste, finalement, si je puis dire, lié au genre.
Il y a ce côté-là. Et pourquoi anticapitaliste ? Parce que les revenus économiques ne sont peut-être pas, répartis équitablement entre les genres.
SQFD, et on revient. Oui,
oui. Mais c'est intéressant de ce que tu dis, parce que vraiment, le capitalisme, à un moment donné, est aussi sur l'emprise qu'il a sur nous par rapport aux données qu'on achète, etc. Mais l'analyse de genre, elle est là aussi à partir du moment où on se rend compte qu'on est privé de plein de savoirs. Ça me fait penser à quelque chose qui se passe aussi sur Liège, avec un collectif qui est né en tournant autour des sorcières, et qui, et d'ailleurs, de ce dont tu parles, la maîtrise d'informatique, etc., on pourrait faire un lien avec des potions magiques, mais c'est ce collectif-là qui s'est construit sur Liège, c'est réexplorer et questionner un petit peu les savoirs médicaux autour de la gynécologie. Parce qu'à un moment donné, on est aussi dans une société aujourd'hui où nous, on donne tout à... notre corps est un peu colonisé, quand même, tant dans nos pratiques que dans nos savoirs. Et donc, si ça gratouille au niveau de la vulve, on ne sait plus forcément à cause de quoi c'est. Donc, on va appeler le gynéco, on va y aller. Les gynécos, qui sont souvent des hommes, vont nous dire « tu dois faire ceci, tu dois faire cela ». Et c'est fou qu'on ne sache pas sur notre propre corps. Et en fait, ça se passe sur plein de choses, où on se rend compte que... hier, on en discutait avec Vali et avec Émilie, que ça serait trop chouette de pouvoir ouvrir une bière soi-même, parce qu'on n'arrive pas forcément à utiliser un briquet ou un couvert.
Mon Dieu, tellement.
Mais oui, et alors directement, il faut un mec dans les parages qui dit « tu veux que je te le fasse ?» Mais donc là, on est loin du corps ou de ce genre de choses. Mais en tant que femme, par culturellement, nous, on est bonnes à gérer le foyer, faire des choses qui sont dites féminines. D'ailleurs, tu m'as fait peur quand tu lui as quand t'as demandé à Sophie si elle développait un programme pour gérer...
Le frigo, par exemple.
Oui, c'est ça, j'ai eu peur que tu parles de ça.
Parce que ça fait mon genre.
Non, mais faites attention aux frigos connectés qui vous diront quand il faut aller faire les courses, si vous pouvez encore consommer ce qu'il y a dans votre frigo, pour votre bien, hein, pour votre bien, parce que si les yaourts sont périmés, quand même... alerte sanitaire, vous aurez l'AFSCA qui viendra...
Et ça s'adresse aux femmes le plus souvent, voilà, ce genre de, voilà, de publicité.
Mais donc ça peut tout à fait... Donc les réseaux sociaux féminins et protégés du point de vue de l'intimité de la vie privée peuvent tout à fait être utilisés pour des thèmes santé, sexualité, relations, évidemment. Et pas qu'il n'y en aurait pas besoin pour les hommes, mais les hommes n'ont pas toujours besoin de communiquer autant que nous aimerions le faire, nous. Donc voilà.
Mais moi, j'ai quand même la question, donc par rapport à samedi et par rapport à ces activités, ces événements non mixtes, est-ce que c'est pas une sorte de repli et de se dire que finalement, autant se retrouver entre nous que plutôt d'essayer de faire changer les choses à l'intérieur et de se dire, mais non, on va pas se replier entre femmes ou ayant un vécu de femme en laissant les choses aller comme ça.
Mais dans mon vécu de femme bruxelloise, ce qui est intéressant, c'est justement d'avoir le côté non mixte samedi, mais d'être aussi en relation avec le groupe Abelli au niveau wallon francophone et au niveau BXLUG, qui est le groupe mixte des utilisateurs Linux à Bruxelles. BXLUG pour ça. Donc pour moi, c'est intéressant d'avoir les différents interlocuteurs selon les questions ou les pratiques que j'ai envie de vivre ou de faire fonctionner. Ben, je vais m'adresser à l'un ou l'autre groupe, sachant qu'un groupe est parfois porteur d'informations, de personnes ressources pour les autres groupes. Là, on vient de saluer Fred de la radio. Et on se connaît entre nous simplement. Ben, il y a des pratiques qu'on n'abordera pas avec n'importe qui. Et c'est pas n'importe qui, mais c'est question de... Je me sens à l'aise de partager ces données, de dire pourquoi c'est important pour moi, etc. Quoi.
Oui, et ça, effectivement, c'est quand même une critique. Pardon, tu voulais...
Vas-y, vas-y.
C'est vraiment la critique principale qui est souvent faite, justement, à la non-mixité. Et la réponse, elle est toute simple. C'est juste que la non-mixité, c'est uniquement temporaire. C'est des espaces temporaires bien délimités dans le temps.
Transitoire.
Effectivement, pour mieux revenir après, pour revenir mieux armé, ouais, dans les moments de mixité. Parce que de fait, c'est juste un moment essentiel qui va permettre de juste nous d'acquérir un petit peu de force entre nous. Et ça n'aurait pas de sens de juste garder cette force-là entre nous si ce n'est pas pour revenir après... Dans les moments mixtes.
Mais c'est de la stratégie. À un moment donné, comme on disait tout à l'heure sur le fait de mutualiser ce qu'on vit au terme de consentement, par exemple, et que ce que Val disait, ne pas se dire c'est moi qui suis folle, c'est moi qui ceci, c'est moi qui cela. Les espaces non mixtes permettent de mutualiser tout ça, de s'en rendre compte. Donc c'est l'espace réflexif et un peu élaboration d'action. Donc on gagne en outils, on y va. Et à un moment donné, quand c'est la phase d'action, la mixité, venez si vous voulez. Mais ça, c'est intéressant de voir aussi, comme quand il se passe des choses qui s'organisent selon cette ligne du temps, ça gueule au moment non-mixité, mais au moment mixité, venez les gars, on y va. Là, c'est bon, non merci.
Ouais, Allez, je pense aussi que c'est un problème de génération. Enfin, un problème de génération. Je pense que ça va changer avec les nouvelles générations, finalement. Je l'espère qu'on est en train vraiment de sensibiliser vis-à-vis du féminisme et des différents féminismes qui existent et des problèmes que rencontrent les femmes. Donc, peut-être que, je sais pas, peut-être qu'il y aura de moins en moins besoin de ces outils de non-mixité. On l'espère.
Peut-être, mais je pense que ce que tu dis, c'est intéressant, mais il faut faire attention à ne pas tomber dans ce qu'on appelle le mythe de l'égalité déjà là, et où on a l'impression que nous, c'est bon, c'est acquis, on a des voix qui sont lotées, on est Belgique, premier pays au niveau du harcèlement, par exemple. Et se dire, c'est bon, on dort, ça va aller, on mise sur les jeunes, maintenant on fait des catalogues non-genrés, etc. Et d'être moins vigilante et vigilant, qu'on vous inclut les gars, sur ce qui se passe en termes d'inégalité. Donc c'est un super espoir et je pense que c'est un peu l'idée qui est poursuivie dans chacune des actions féministes qui sont menées, mais elles sont toujours bien nécessaires et toujours bien, bien réelles et bien, oui, bien nécessaires.
Et on le voit avec les samedis, donc Sophie.
Voilà, là je viens d'éclater de rire intérieurement parce qu'on parle de consentement. Et en matière de pratique informatique, on ne parle pas assez de consentement. Qui organise le système informatique dans une maison? Qui décide qu'on aura tel Windows ou tel Linux? Qui dit « Ah, mais attends, je vais m'en occuper, t'inquiète pas ». Qui installe l'imprimante? Qui choisit? Demandez-vous ça, demandez-vous si vous êtes à égalité. Moi, j'ai d'abord été initiée par mon frère, parce qu'en réalité, je travaillais avec des hommes dans une revue informatique. Et je disais à mon frangin, écoute, là, il m'a répondu que, et en fait, il voulait me faire taire. Donne-moi le truc. Et donc, il me disait, il t'a dit ça parce que, mais il te cachait qu'il y a ça et ça. Et donc, je revenais à la charge, et je pouvais mieux assumer mon rôle. Bon, et à un moment donné, j'ai dépassé mon frère en Linux. Il n'est plus ma personne de référence, parce qu'il ne m'aide plus beaucoup, parce que comme je l'ai dépassé, bah, il râle un peu, et donc, j'ai d'autres aides pour
c'est
d'autres
toi
questions.
C'est toi qui es devenue la référente.
Oui, mais non, parce qu'il ne me reconnaît pas, moi, comme référente.
Et c'est là le problème, en fait.
Et ouais. C'est pas grave, c'est mon frangin, il est gentil pour d'autres choses, et voilà. Mais donc, posez-vous la question du consentement dans vos pratiques informatiques. Est-ce que vous êtes obligé d'utiliser Facebook parce que vous voulez être en contact avec telle personne? Ou est-ce que vous pouvez, par exemple, proposer, plutôt que d'utiliser tout le temps Skype, ah, parce que c'est facile, proposer plutôt un Framatalk? C'est gratuit, c'est super facile à utiliser et on peut vous montrer en 2-33 mouvements. Donc moi j'ai initié une copine à Framatalk et j'ai installé un Linux sur le vieux portable qui ramait de la fille de la copine. Parce que la copine elle garde son Mac, mais la fille de la copine elle a 16 ans et elle n'a pas de problème à utiliser mon Linux. Donc le verre est dans le fruit.
Mais quand on disait que les jeunes générations vont pouvoir peut-être diminuer ces problèmes qu'on rencontre, j'ai un gamin de 12 ans, mais en informatique, quand je dis qu'il y a un truc qui rame ou un truc comme ça, il fait « Attends, je m'en occupe ». Mais c'est, voilà, c'est parce qu'il est payé, je lui dis, je fais, ça va, c'est bon, je crois que je m'y connais un peu plus que toi. Et il est persuadé que...
Et on ne veut pas nécessairement leur couper ça, mais d'un autre côté, on aimerait bien être reconnu et on voudrait bien qu'il y ait...
Moi, je dis, c'est bon, retourne à ton PC, je laisse moi le mien.
C'est ta politique familiale. Mais je trouve qu'on pourrait parler de consentement dans ce domaine-là aussi.
Ouais. En fait, ça rejoint tous les domaines, finalement, de la vie, quoi. Mm-hmm. Du consentement, de qui décide quoi.
Et à toute la culture sur le genre de qu'on apprend très très tôt aux jeunes enfants. Tu es une fille, donc tu aimes le rose, donc tu aimeras cuisiner. Je t'offre une dinette pour que tu apprennes déjà. Je t'offre une poupée parce que bah, tu seras maman, bien sûr. Et puis après, il y a le garçon. Bah, toi, tu as des outils. Toi, tu es un grand garçon, très
je
très
courageux.
Je t'offre
un iPhone rose parce que c'est facile. Il y a des icônes.
Ouais. Et du coup, c'est toute cette culture finalement du genre qui rejoint toute la thématique d'aujourd'hui. C'est en fait, c'est quoi le genre? D'où il vient? Est-ce que c'est une réalité? Est-ce que c'est une invention? Est-ce que c'est pas juste une culture séparatiste qui donc fait qu'on doit se retrouver en non-mixité pour retrouver des acquis qu'on a perdus parce que pas appris super jeune? Et du coup, pour enfin finir par retrouver l'autre, celui qui est devenu l'autre, donc le garçon, éduqué comme un garçon, alors qu'à la base, on était nés égaux, pareil, ok, il y avait une différence sexuelle au niveau du sexe, mais qui n'est pas énorme, et on s'est complètement séparés, et du coup, on fait des luttes féministes qui sont évidemment engueulées par les garçons, ah, les féministes sont encore en train de fomenter des révolutions, et alors qu'on se bat pour les mêmes choses. Il y a des garçons qui veulent jouer à la dinette. Enfin, on est égaux de base, mais on doit retrouver ce truc naturel et tout un travail hyper fatigant là-dessus.
Juste anecdote que j'ai racontée hier, d'ailleurs, quand je vous ai rencontré, c'est mon père m'a dit ah ben c'est facile d'être féministe aujourd'hui vu qu'il n'y a plus le service militaire.
Ouais.
C'est fabuleux. Bah oui, c'est facile d'être féministe, on ne devrait quand même pas porter...
Et qu'on fabrique les bébés par procréation artificielle dans des couveuses.
Ça, non, il n'a pas été jusque-là. Mais voilà, c'est qu'en gros, tant qu'il y avait le service militaire, les féministes l'ouvriraient peut-être beaucoup moins.
Parce qu'elles ne veulent pas aller au service militaire.
Voilà.
On se ferait corriger.
Oui.
Et c'est toujours la même critique, elles l'ouvriraient beaucoup moins, donc elles parlent trop.
On va peut-être se faire une petite pause musicale. Est-ce que c'est possible de s'écouter un petit batouk? Non, pas Batouk. pas Batouk. Non, c'est full. Bah écoute, on te laisse carte blanche pour la musique.
We'll be right back. Radio Esperanza.
Radio Esperanza.
Esperanza, c'est propre.
On peut dire ce qu'on veut et surtout de la spontanéité.
Radio Esperanza.
Vous nous écoutez sur radio.esperanza.be mais aussi en FM sur les ondes des radios partenaires.
Radio Panique.
Radio Panique.
105.4 à Bruxelles.
Radio Campus Bruxelles, 92.1.
Radio Larzac
sur
87.8
et 98.6.
48 FM
sur 105.0.
Vous nous écoutez sur Rhône
88.1.
Radio Campus Amiens sur 87.7.
UFM 106.9 à Mons.
Radio Esperanza.
Esperanza.
Et nous sommes toujours dans ce débat. Après, je ne sais pas s'il faut appeler ça débat ou discussion, parce qu'en gros, on est quand même assez toutes d'accord d'ailleurs. Genre et militantisme avec Sophie de Abélie, Virginie de Barricade, Tiffany de Payton Festival et Valie de Payton Festival également. Et Lise de Radio Esperanza.
Bah oui. Et Déborah de Radio Esperanza. Voilà.
Et moi, ça rime.
Voilà. Et donc, là, il y avait une super discussion qui se passait en off, hors antenne, sur faire des ponts, on fait des ponts, on crée des liens, sur éventuellement faire des ateliers, c'est ça ? Mm-hmm. Des ateliers de défense numérique.
D'autodéfense numérique.
D'autodéfense numérique. Ouais. Qu'est-ce que c'est ?
Donc, en utilisant ces moyens informatiques, soit on les utilise comme on nous dit de les utiliser, soit on se demande les implications que ça a en termes de partage de données personnelles.
Tu parles par exemple de Facebook, Twitter, tout ça.
Voilà. En comprenant comment ça se passe, on peut se dire, mais là, je ne suis pas d'accord. Si j'utilise Android et que la moitié des applis que j'ai installées me demande tout mon carnet d'adresse contact, tout le contenu de mes SMS et plein d'autres choses, est-ce que je suis d'accord ? Donc on va essayer, et c'est compliqué, de dégoogliser son smartphone. Mais il y a des possibilités. Donc voilà, quoi. Mm-hmm. C'est ça l'autodéfense. C'est à un moment donné, on se rend compte, oui, mais non, c'est des conditions qui sont totalement iniques, qui me sont imposées, je ne suis pas d'accord. Et je ne suis pas hystérique, mais néanmoins, je ne suis pas d'accord, et je vais prendre les mesures nécessaires pour que cela cesse.
Donc c'est vraiment créer aussi des espaces d'autodéfense particuliers, mais qui ne sont pas spécifiquement féministes, c'est ça ?
Non, parce que cette question de qu'est-ce que la vie privée, qu'est-ce qui mérite d'être protégé, non pas parce que c'est secret, parce que c'est honteux, simplement parce que c'est privé, c'est intime. Parce que on n'est pas obligé d'être extime et de tout montrer à tout le monde. On peut choisir à qui on montre quoi. On n'a pas nécessairement envie que, par défaut, notre carnet d'adresses, des gens qu'on contacte et de tous les gens avec qui on est en contact, soit partagé aux applications qu'on utilise pour la météo, pour la gestion de l'agenda, pour tout et n'importe quoi. Or, ça a l'air d'être indispensable. Pourquoi ? Parce que c'était comme ça que se finançaient les développeurs d'applications. Mais on peut demander à ce qu'on invente d'autres manières de fonctionner.
Et donc vous entreriez Payton Festival dans l'idée, mais vous avec une option, un angle plus féministe du coup.
Oui, bah du coup ce serait de faire, on pourrait éventuellement imaginer de faire des liens entre nous et de faire de l'autodéfense numérique en non-mixité. Parce que l'informatique, ça reste un métier, enfin c'est un domaine qui est très masculin, en tout cas qui croit qu'il est très masculin, et enfin monopolisé, et qu'en fait sortir de tout ça, de Google, de Facebook, de Twitter, ça demande énormément de temps, de connaissances, et en fait ils ont un monopole tellement énorme qu'on est seul face à ça, et du coup se retrouver entre femmes, et du coup avoir des moments d'entraide vraiment, là où les hommes sont, comme vous disiez tout à l'heure, tout seuls comme des geeks devant leur PC, en fait nous on est toutes dans l'entraide, on veut pas en laisser une en rab, et du coup de céder là-dedans. Et
c'est par rapport au non-consentement à l'aide reçue que la pratique non mixte est utile, me semble-t-il. Ouais. C'est quand on ne se sent pas légitime, pas compétent, et que pour réapprendre qu'on est légitime et compétent pour s'occuper de son propre PC, ce qui est quand même quelque chose d'évident, me semble-t-il, maintenant, il faut peut-être passer par un atelier non mixte. Mmh. Et ce n'est qu'une étape, et c'est transitoire, et c'est pas grave.
Donc se réapproprier son PC, se réapproprier finalement sa vie privée, puisqu'on protège, on protège les données de sa vie privée, et en tant que femme, créer un espace à part pour se protéger. Et en fait, c'est un peu un parallèle avec se réapproprier, on en parlait tout à l'heure, se réapproprier son corps, se réapproprier la culture, parce que pareil, dans la culture, il y a aussi beaucoup de choses qui sont finalement des domaines très genrés, finalement. Et tu disais, Sophie, tu parlais tout à l'heure donc, d'espace de protection des données qui n'était pas forcément féministe, mais moi je pense, ça me permet de faire le lien, par exemple, je sais que j'ai des amis au Maroc qui luttent et qui sont militants pour les droits de la communauté LGBTQI+, voilà. Et en fait, qui sur Internet doivent trouver des solutions pour ne jamais être visibles et que leur activité de militantisme dans certains pays, donc en particulier le Maroc, mais je veux dire, ça existe dans beaucoup de pays, leur activité de militantisme ne doivent absolument pas être visibles parce que sinon, de toute manière, ils finissent en prison. Donc c'est vraiment réapprendre à s'armer finalement via les outils informatiques, mais créer là pour le coup des murs, créer des murs qui protègent contre certaines choses, quoi. Donc c'est aussi une manière de c'est pas genrer l'informatique, mais de l'informatique comme outil, pour lutter contre toutes les exactions à l'encontre des femmes et à l'encontre des minorités, parce que je déteste ce mot, mais...
Et quand tout va bien, on n'a pas besoin d'avoir ce respect de la vie privée. Et puis quand ça commence à foirer, là, il vaut mieux faire gaffe et donc laisser son smartphone chez soi au moment où on veut s'enfuir pour tout plein de raisons.
Puisque tu dis par rapport au genre, Lise, en effet, il ne faut pas forcément le genrer. Et ça serait super qu'à un moment donné, on puisse se débarrasser du genre. Mais dans un premier temps, il faut aussi regarder qu'il est là et qu'il est source d'inégalité.
Totalement. Et là, pour le coup, pour l'informatique, c'est incroyable à quel point...
Mais oui, mais partout, en fait, il y a un truc qui s'appelle le gender blindness, donc la cécité du genre. Et c'est ce truc de dire, bah voilà, on a pris conscience du genre. Les garçons, c'est du bleu, c'est de la mécano, etc. Les filles, c'est du rose, c'est du poupi, du choupi, elles sont gentilles. On ne veut plus, on fait autrement. Mais c'est pas parce que tu permets à ta fille de faire du football que tout est réglé. Il y a encore plein de... Enfin, il faut voir le genre qui nourrit le sexisme et qui crée des murs, en effet. Et je pense qu'il est nécessaire de pouvoir en construire d'autres et de se dire, OK, le genre, il est comme ça, on veut faire des choses différentes. Et puis ces murs seront des appuis pour d'autres ponts, si on reste dans la thématique d'Esperanza, et qui permettront d'avancer.
Oui, clairement. Mais vraiment, clairement. Ça, c'est clair qu'il n'y a pas photo. Il faut... En fait, ce que tu dis là, c'est vraiment... Il faut continuer le combat, coûte que coûte.
C'est
et
ça.
Encore plus maintenant, où on commence à gagner petit à
exact.
Petit certaines choses, à faire des ponts avec tous les domaines qui existent. Mm. Petit à petit, il ne faut certainement pas se reposer sur ses lauriers et se dire « Ah bah c'est bon, c'est
ouais, parce que là, il y a tout qui tombe.
Ah oui, bah là, c'est tout. Et on le voit, on le sent maintenant, parce qu'il y a certains retours en arrière qui sont aberrants. Mm-hmm. On le voit dans nos pays européens sur, par exemple, l'avortement, etc. C'est... Je veux dire, c'est un peu catastrophique, quoi.
C'est clair.
Donc bon.
Et tu parlais de proposer à sa fille de faire du football. Je pense, Lise, que c'est un joli pont.
Une transition vers notre prochaine émission.
Eh ben, merci à vous, en tout cas, d'être venus dans cette émission. Donc, il y avait Vali et Tiffany de Payton Festival, Virginie de Barricade et Sophie de Abélis, Suzy à la technique. Merci. Lise également.
Merci, Déborah. Merci à tous.
Au revoir.
À toutes.